Trésor.
Virginie Langeroc.
Le FC Bâle vient donc de remporter la Coupe de Suisse de football. En finale, Bâle a battu Bienne 4-1. Grégoire Augier, on vous retrouve au Wangdorf à Berne. Le score est sévère pour Bienne qui a pourtant livré une belle résistance.
C'est vrai, Bienne a été à la hauteur de l'événement aujourd'hui, à la hauteur de cette finale de la Coupe de Suisse. Bienne s'incline finalement 4-1 face au FC Bâle. Bâle avait pu ouvrir le score à la 37e minute sur une réussite contre-saut de De Freitas. Bienne est parfaitement revenu en début de seconde mi-temps, bousculant le grand FC Bâle et inscrivant l'égalisation par Brian Beyer sur pénalty. À ce moment-là, on a peut-être pu penser que Bienne pouvait bousculer un peu plus que cela le FC Bâle, mais il n'en a finalement rien été, et Bâle dans la dernière demi-heure a pu faire la différence, inscrivant le 2-1 sur pénalty par Shakiré à la 66e. Sotichek pour le 3-1 à la 78e avant que Cissé n'inscrive à la 80e le 4-1. Succès donc logique dans cette finale de la Coupe de Suisse du FC Bâle qui remporte sa 14e Coupe de Suisse cette saison. Le FC Bâle est revenu au sommet du football suisse, signant même un doublé Coupe Championnat, le 6e doublé de son histoire.
Grégoire Augier, merci, on l'entend, vous êtes dans l'ambiance au Wangdorf à Berne, et puis la victoire de Bâle fait aussi les affaires du Lausanne Sport, désormais assuré de jouer la Coupe d'Europe. Plusieurs pavillons de la protection civile ont été installés au-dessus de Blatten, le long du versant, en face du glacier du Birch. De là, la protection civile peut observer le terrain pour détecter d'éventuels mouvements de la montagne. 4 jours après la chute spectaculaire du glacier qui a recouvert de roches et de terre le village. Apparemment, les éboulements sur le flanc inférieur du glacier se poursuivent. Plus en aval, à Ferden, le niveau du barrage est légèrement remonté cette nuit, mais sans que ce soit alarmant. Et l'eau de la rivière, la Lonza, continue de s'évacuer sans risque à ce stade. La commune veut désormais mettre en place un point de contact pour les personnes en difficulté financière, également améliorer la recherche de logements pour les habitants. L'Ukraine va participer à des pourparlers avec la Russie. Ce sera ce lundi à Istanbul. Elle enverra son ministre de la Défense. La Russie avait proposé ces pourparlers après un premier round de négociations infructueux. L'Ukraine avait laissé planer le doute sur sa participation. Car malgré les efforts diplomatiques, les positions des deux restent très opposées. La Russie exige notamment que l'Ukraine renonce définitivement à rejoindre l'OTAN et lui cède les 5 régions dont elle revendique l'annexion. Un navire humanitaire doit partir dans les prochaines minutes à destination de Gaza depuis l'Italie. L'équipage est composé d'une douzaine de personnes, dont Greta Thunberg, la militante écologiste suédoise. Selon un responsable politique italien qui a soutenu l'opération d'un point de vue logistique et administratif, le navire porte le drapeau de l'opinion publique. Nous essayons, dit-il, de faire plus de bruit autour de la situation humanitaire à Gaza. Le ciel se couvre en seconde partie de journée. Averses ou orages sont attendus d'abord sur les reliefs, puis en plaine. Des rafales de vent sont possibles à proximité des orages. Les températures restent chaudes, jusqu'à 28 degrés cet après-midi en plaine.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Depuis 15 ans, le PAL Festival fait vibrer les montagnes et secoue les sommets. Plongeons givrés en lac d'altitude, musique et expo à l'ombre des châteaux, rock'n'raclette sur les crêtes ou encore concert à 3000 mètres. Jusqu'au 20 septembre, découvrez le plus insolite des événements valaisans. Plus d'informations sur palpfestival.ch.
Le Grand Soir.
Retrouvez l'événement qui décoiffe dans Le Grand Soir du lundi au jeudi à 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
C'est Cartier Livre.
Salut Nicolas.
Ah, salut Hélène.
Ah, dis donc, tu m'as l'air bien soucieux.
Non, c'est rien, mais tu vois, je prépare l'émission qu'on va faire à Soleur aux journées littéraires et puis j'ai pas trouvé de titre pour le web.
Ah, attends, je vais t'aider. Le système Soleur.
Ouais, c'est un classique. Non, j'aimerais bien un truc un peu plus original.
Ah bon ? Ouais, je réfléchis. Ah, Soleur du crime.
Ouh, joli, mais... C'est un peu trop glauque, hein. On va pas pour parler de polar.
Bon, t'es exigeant, dis donc. Ouais. Alors attends, missile solaire.
Oh là là, non, mais franchement, avec la guerre à nos portes, Gaza et tout ça, non, ça serait mal vu quand même.
Non mais c'est bon, hein, je me casse la tête pour t'aider, et monsieur n'est jamais content. Bon. Eh ben tu sais quoi, tu vas le trouver toi-même ton titre, et puis pour l'émission, eh ben débrouille-toi.
Hélène Bon bah oui, je vais me débrouiller, et puis cette émission, bah je vais la faire en solo. Solo tourne. Ouais.
E lecturas.
Così spaziente.
Che forse è di sopra nella biblioteca.
Quartier Livre. Eleni Sterz.
Französisch.
Nicolas Julien.
Nous tous et nous toutes. Ceci n'est la même barque.
Vous entrez.
entrer dans la réserve naturelle des bouquins. Quartier Libre.
Oh, d'abélé.
Mais non, pas question d'être seul pour cette émission enregistrée aux 47e journée littéraire de Soleure. On est divinement bien entouré à la Cantina del Vino, ravissante échoppe posée au bord de l'Arve sur le quai du Landhaus. Week-end caniculaire, on voit les gens se baigner à deux pas de nous. C'est là que nos confrères de SRF ont installé leur studio et nous permettent de transporter Quartier Libre en terre alémanique devant un public en délire. Bonjour, grüezi, ciao à tutti, bienvenue. Merci d'être là. Une heure d'émission pour s'affranchir des barrières linguistiques, passer les montagnes, traverser les océans, célébrer la musicalité des langues, et ceci en compagnie de trois des invités de ces journées littéraires. La poétesse vaudoise Adèle de Montvallon, qu'on peut applaudir. Bonjour à vous, bienvenue. Le rappeur romancier voyageur neuchâtelois Jonathan Dumani, bienvenue à vous.
Bonjour.
Et la traductrice franco-biennoise Anita Rochdi. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous accompagnez dans cette émission, une journaliste et écrivaine transfrontalière et globetrotteuse. Bonjour Salomé Kiner.
Bonjour Nicolas.
Bonjour, bravo. C'est vous qui signez la carte blanche de cette émission. De quoi sera-t-il question ?
Il sera question d'œuvres de jeunesse.
Très bien, très bien. En coulisses, il y a à la réalisation Samuel Morier-Genoux, Eddy Massaoudi et Patrick Arnold à l'enregistrement et sonorisation ici à Soleure, et à la diffusion à Lausanne, Bastien Testori. La programmation musicale est signée Bastien Arnold. Cette émission fonctionne grâce à l'énergie Soleure pendant une heure. Bienvenue.
Quartier Libre, Nicolas Julien.
Les journées littéraires de Soleure, 47e édition, c'est le rendez-vous majeur de la scène littéraire suisse, avec une septantaine d'invités, des tables rondes, des lectures, des performances, des ateliers, des émissions de radio, la remise des prix suisses de littérature, et j'en passe. Anita Rochdi, vous qui traduisez notamment des auteurs tessinois comme Fabio Andina ou Yari Bernasconi, dont on va parler, c'est un moment important dans votre année littéraire?
Oui, c'est un petit rendez-vous qui marque chaque année. Il y a aussi l'Assemblée générale de l'ADS pour les auteurs et les autrices, et les traducteurs et traductrices de Suisse. C'est un moment important où toutes les langues se réunissent. Donc oui, puis on mange bien.
Ce qui ne gâche rien, c'est vrai. Jonathan Dumani, vous êtes ici à Soleure en tant qu'auteur de ce livre dont on va parler, Le vrai visage de la pluie. Vous êtes aussi ici en tant que rappeur, performeur. On vous connaît depuis de nombreuses années sous le nom d'Abstral Compost. Poésie, performance, écriture de récits de voyage, tout cela cohabite avec bonheur sous votre plume. Vous avez des origines et un parcours pour le moins cosmopolite. Est-ce que cet ancrage dans une scène littéraire suisse telle que la présente Soleure est quelque chose d'important pour vous ?
Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'écris, mais souvent quand on fait du rap, on considère pas ça comme de l'écriture. Donc je crois que c'est important tout d'un coup d'avoir cette visibilité pour le concert de ce soir et aussi pour présenter le livre qui a été publié aux éditions La Veilleuse l'année passée. Ouais.
Adèle de Montvallon, je présume que c'est votre première apparition aux journées littéraires, puisqu'on vous découvre avec un recueil de poèmes en prose, Ce que l'ombre dit de la lumière, publié l'an dernier aux éditions Olivier Moratel. Vous aviez 18 ans au moment de la publication. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous de venir aux journées littéraires à Soleure pour en parler ?
Alors là, c'est une expérience incroyable. Je suis très reconnaissante d'avoir été invitée ici. C'est vrai que c'est la première fois donc que je fais mon apparition pour ces journées. Et c'est une magnifique expérience. J'ai eu plusieurs rendez-vous, discussions, tables rondes, où j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur mon livre. Et c'est une belle manière pour moi de le faire découvrir aux gens.
Alors c'est avec vous qu'on va commencer cette discussion, Adèle de Montvallon. Vous êtes née à Morges en 2006, vous êtes aujourd'hui étudiante en droit à l'Université de Lausanne, si je ne m'abuse. Et puis votre premier livre a reçu un accueil très chaleureux de la part du milieu littéraire. Je vous propose qu'on s'y plonge avec un premier extrait lu par Hélène Ichters.
6. Au loin, des silhouettes parlant. Marchant, mangeant, fumant, écoutant de la musique, parfois même faisant plusieurs de ces choses à la fois. Entre elles, sur elles, des taches, des traces et des rayures les rendent floues ou sales. Plus près, d'autres personnes, assises, debout, marchant, travaillant, écoutant de la musique, parfois même faisant plusieurs de ces choses à la fois. Aucune tache, aucune trace, aucune rayure ne les salit ou ne les abîme. Au milieu, une vitre.
Voilà un poème extrait de ce recueil « Ce que l'ombre dit de la lumière », votre premier livre, Adèle de Montvallon. Et j'ai choisi ce poème parce qu'il me semble qu'il représente bien ce qu'on découvre sous votre plume. Alors d'abord, c'est le poème numéro 6. Il y en a 84 en tout dans le recueil. Pas de titre, simplement des numéros. Est-ce qu'il faut y voir un sens particulier, une progression ou votre goût pour les sciences exactes ?
Alors effectivement, il n'y a pas de titre, c'est seulement des numéros. Parce que mes poèmes, il y en a certains qui sont très courts, qui peuvent faire qu'une seule phrase. Et je cultive pas mal le mystère aussi dans mes poèmes, avec où toute l'imagination du lecteur fait le travail aussi avec les mots que j'ai mis. Donc mettre un titre, ça aurait été peut-être trop révélé, ou parfois même prendre encore sur le poème qui est déjà en lui-même très court. Et donc mettre des numéros, c'est ce qui me semblait le plus léger et le plus dans l'ensemble de mon recueil.
Je parle de science parce que la science, je crois, est une de vos passions. Et cet esprit scientifique, on le rencontre tout au long du livre. Beaucoup de vos poèmes sont des observations de phénomènes optiques ou météorologiques ou physiques, des jeux de lumière, des illusions parfois. Une manière peut-être très scientifique, oui, d'analyser vos observations.
Alors c'est vrai que moi j'ai fait biologie-chimie, donc on peut trouver un aspect très scientifique, mais c'est surtout dans l'observation du monde, beaucoup de contemplation. J'aime beaucoup la nature et c'est vrai que je pense que c'est là qu'on voit un peu ce côté plus scientifique, de vraiment avec des termes plus spécifiques. Mais voilà, c'est pas spécialement, je dirais pas que j'ai décrit scientifiquement la nature, mais plutôt dans une contemplation avec des termes, voilà, que j'ai mis sur certains poèmes.
Ce que l'ombre dit de la lumière, titre intéressant, ça peut être à la fois ce qu'on peut déduire sur la lumière à partir de l'ombre, dans un jeu de contraste, mais il y a aussi ce verbe « dire », comme si l'ombre pouvait parler. Ce jeu entre l'animé, l'inanimé, le vivant et sa représentation, c'est aussi quelque chose qu'on rencontre dans beaucoup de vos textes.
Oui, effectivement. Alors, ce que l'ombre dit de la lumière, ça signifie une chose en particulier, c'est que mes textes, comme j'ai dit avant, je cultive beaucoup de mystère. Je ne décris pas la chose en elle-même, mais plutôt je la suggère avec certains mots, certains détails précis. Donc on peut dire que je décris par son ombre l'objet, et cette ombre met en lumière cet objet, il dit des choses sur cette lumière qui, elle, ben cet objet est construit par l'imaginaire du lecteur en soi.
Dans sa préface, Jean-François Fournier, journaliste et écrivain, qualifie certains de vos poèmes d'impressionnistes. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce qu'il y a chez vous ce rapport justement à la lumière qui structure l'image ?
Oui, on peut dire ça comme ça. C'est clair qu'on a pas mal comparé aussi mes poèmes avec de la peinture. Donc peindre avec des mots, et c'est très visuel. C'est vraiment des tableaux du quotidien qu'on se représente. Donc on peut vraiment se plonger dans une atmosphère, se plonger dans quelque chose qu'on se crée aussi avec les mots que j'écris. Donc oui, on peut dire que d'une part c'est impressionniste.
Oui, moi je pensais aussi, alors peut-être à l'impressionnisme, mais je voyais aussi un peu de surréalisme. J'ai beaucoup pensé à Magritte en vous lisant, dans cette manière que vous avez de produire de l'insolite à partir de choses en apparence très banales, et dans un grand souci de réalisme aussi.
Oui, alors c'est exactement ce que m'a dit mon éditeur. Il m'a dit que mes poèmes lui faisaient penser à des tableaux de Magritte qui mettent en avant parfois le côté un peu décalé de notre quotidien. Et c'est clair que parfois dans mes poèmes, je relève certains détails qui peuvent paraître un peu spéciaux, où on n'aurait pas forcément pensé mettre celui-ci en avant. Donc oui, c'est vrai que ça peut faire penser à Magritte.
On est dans une poésie parfois très brève, proche par moments de l'économie de la poésie orientale, et les jeux des sons prennent alors tout leur sens. Je vous propose qu'on écoute mis bout à bout deux de ces très courts poèmes, à nouveau lus par Hélène Ichters.
25. Lorsque le soleil, libéré par les nuages, éclaire les écorces, l'herbe se zèbre. Septante-huit. Il traverse la route sereinement sans regarder, posant délicatement une patte devant l'autre. Il se retourne et ses yeux brisent l'illusion de cette scène en noir et blanc.
Magnifique image de ces yeux d'animal qui font passer l'image du noir et blanc à la couleur. Et puis cette herbe qui se zèbre, c'est quelque chose qui doit vous parler, ça, de Jonathan Dumani.
Oui, c'est vrai que j'aime bien le son dans l'écriture et la poésie sonore, et c'est les allitérations, les assonances.
Oui, je pose la question parce qu'on est là dans le jeu de mots, de sonorités qu'on rencontre beaucoup dans votre livre, Jonathan Dumani. On va en parler tout à l'heure. Des jeux de sonorités qui sont aussi l'essence de la poésie, très utilisée en particulier dans la poésie scandée ou rappée. Adèle de Montvallon, est-ce que le rap, le slam font aussi partie de votre culture poétique et plus généralement, est-ce que la poésie est un univers qui vous était déjà familier au moment de vous lancer dans l'écriture ?
Alors pour moi, le rap, ça me fait beaucoup appel aussi à la poésie, c'est vrai, parce que les formulations, les sons, les dissonances, consonances, etc., c'est clair que ça me fait beaucoup penser à ça. La poésie, ça faisait déjà partie un peu de mon quotidien aussi avant que j'écrive. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à lire. Ça amène vraiment, on est vraiment dans le présent quand on lit de la poésie. Donc c'est aussi des petites respirations dans notre quotidien. Et c'est quelque chose que je trouve très important d'être là, dans le présent. Et donc la poésie, c'est quelque chose qui nous permet de le faire, de prendre ces petits instants. Et voilà.
Alors on abordera un peu plus tard dans l'émission la question de la traduction de la poésie avec vous, Anita Rochdi. Un sacré défi, on en parlera. Mais est-ce que ces poèmes en prose d'Adèle de Montvallon seraient plus facilement traduisibles, selon vous, que des poèmes à la versification plus stricte, ou alors la difficulté serait la même ?
Je ne peux pas vous donner un avis comme ça, après avoir écouté 3 poèmes.
Oui.
Je pense que la grande difficulté de la traduction, c'est toujours d'identifier la voix d'une autrice, d'un auteur, et de la restituer. Je pars du principe que tout est poétique dans la littérature, si elle est bonne. Donc quand je traduis les romans de Paolo Cognetti, c'est pour moi de la poésie. Il y a aussi des jeux de sonorité, je traduis beaucoup au son, à la voix. Plus facile, moins facile. La traduction n'est pas qu'un exercice de passe-passe.
Non, et, c'est ça.
Je ne saurais pas vous dire.
Non, mais c'est bien répondu. Alors, ce qui surprend en tout cas de la part d'une autrice aussi jeune que vous, c'est que ces poèmes n'ont pas du tout un caractère sentimental ou dramatique qu'on pourrait attendre. Bon, alors, c'est un cliché de la poésie d'adolescents ou de jeunes adultes. Et ça a intrigué notre chroniqueuse Salomé Kiner, qui nous en parle dans sa carte blanche juste après un premier titre musical, une chanson Made in Zolotourne de la chanteuse Zoé Letting Go.
Always forever, that's what we said. You and I, we stand together. Still in my head, but why am I writing this letter? Things run out of control. I miss you now more than ever. That's what I feel. You and I, we dream together. It felt so real, now here I am trying to gather the pieces of my soul. Do I say goodbye forever, or just for a while? I don't wanna say goodbye forever, but I think it's time to let it go, go, let it go, go, let it go, let it go. I need more than just our memories to fill the space. You and I, we tried so hard. Our love can keep the pace. I wonder if you understand the need to let it go. Just for us, a chance to spread my wings, to grow myself, to know myself, to set me free. I wonder if we find a way before we let it go. Do I say goodbye forever, or just for a while? But I think it's time to let it go, go, let it go, go, let it go, let it go, go, let it go, go, let it go, let it go, go, let it go, go, let it go, let it go, go, let it go, go, let it go, let it go. I can't go on. You want me, you need me, but
just for a while. I don't wanna say goodbye forever, but I think it's time.
Letting Go, la chanteuse soloroise Zoé dans Quartier Livre. Vous écoutez RTS Première, nous sommes aux journées littéraires de Soleure en compagnie d'Adèle de Montvallon, Anita Rochdy et Jonathan Dumani. Et c'est le moment de votre carte blanche, Salomé Kinner.
J'ai un fond de sensibilité que je n'arrive pas à étouffer. Lorsque je vois une abeille porter le pollen de fleurs en fleurs et perpétuer ainsi la vie, j'ai presque les larmes aux yeux.
Alors Salomé, quand je vous ai annoncé la venue d'Adèle de Montvallon, vous êtes restée songeuse.
Songeuse en apprenant son âge, puis perplexe en découvrant ses textes. Alors je ne doute pas un instant, comme dirait l'autre, qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Mais je ne m'attendais pas, c'est vrai, à découvrir sous cette plume de 19 ans la sagesse stoïque d'une faiseuse de haïku. On a entendu tout à l'heure le poème numéro 25. Nicolas, j'en reprendrai bien une tournée, s'il vous plaît.
Ok. Lorsque le soleil libéré par les nuages éclaire les écorces, l'herbe se zèbre.
Ramassé, expressif, un twist final, j'adore. Il faut me donner l'adresse de votre maturologue, Adèle, parce que techniquement, je pourrais être votre mère, mais je n'ai pas l'impression d'avoir atteint ne serait-ce que la deuxième syllabe de votre art du détachement. Bon, aujourd'hui, mon truc, c'est plutôt le roman à gros mots, donc pas de comparaison possible, mais quand même, il fut un temps, 2006 à peu près, votre année de naissance, où moi aussi, je grattais des poèmes en attendant mes 18 ans pour enfin vivre ce qui me faisait écrire. Malheureusement pour cette chronique, heureusement pour ma dignité, j'ai brûlé tous mes carnets. Je vous épargne donc mes œuvres précoces. Cela dit, je peux vous dire qu'on était loin, très loin des observations patientes d'Adèle de Montvallon. Alors moi, clairement, je faisais pas du Magritte, je trempais ma plume dans la fiole de poison de Roméo et Juliette et je la mâchonnais jusqu'à ce que l'inspiration me vienne. Amour rimait avec vautour et au secours. Je connaissais deux adverbes, jamais et toujours. Entre les deux, plutôt crever que d'introduire de la nuance. La demi-mesure, c'était pour les adultes qui font la sieste ou les buveurs de Coca Light. Les poules mouillées, quoi. À l'époque, je n'aurais jamais pu me satisfaire d'un chat qui traverse la route délicatement et sereinement, comme vous le faites dans le poème 78. Moi, j'aurais direct ajouté un poids lourd à vive allure et une petite fille de 5 ans qui assiste impuissante à la scène derrière les fenêtres de sa maison. Autre chose, j'ai remarqué que vous écriviez beaucoup au présent, un présent méditatif et serein, un présent de pleine conscience, quoi. Moi, dans mes poèmes de jeunesse, je n'utilisais que le futur parce que j'étais incapable de me satisfaire de ma situation. Je n'existais que dans la projection. Et encore, futur. Conditionnel futur. C'était l'époque où je voulais vivre vite et crever jeune avant de comprendre que mourir âgé valait carrément la peine.
Ça n'a pas dû être facile, cette jeunesse, Salomé.
Non, mais ça s'est arrangé avec le temps. Regardez, je suis là pour en parler. C'est juste qu'à force de romantiser la souffrance façon poétesse maudite, j'étais mal préparée à l'arrivée des véritables drames de ma vie. Quand les coups durs, les vrais, me sont tombés dessus, je me suis dit « Ah ouais, quand même, je pourrais aussi parler des bourgeons du jardin qui bourgeonnent et pas que des fleurs fanées abandonnées sur une table de nuit en même temps que leur maîtresse morte de chagrin d'amour. » Aujourd'hui, je me dis « Les passions dépassionnées, en vrai, pourquoi pas ? Si je peux éviter de m'endormir et de me réveiller avec un éléphant et son éléphanteau couché sur ma poitrine, franchement, ça m'arrange. » Là, je vois Jonathan Dumani qui me regarde avec condescendance, l'air de dire « Ma pauvre fille, fallait choisir le récit de voyage. Il y a beaucoup plus d'action que dans l'élégie funèbre. » Eh bien, j'y ai pensé, Jonathan. J'y ai pensé. À 17 ans, j'avais lu Isabelle Eberhardt. J'étais fan de Rimbaud. Quand je n'étais pas occupée à tisser des alexandrins pour recoudre mon cœur brisé, je m'imaginais pétaradant sur la route panaméricaine avec un mec dans mon sidecar qui ressemblait à Jeff Buckley. Maintenant que j'y pense, il y a un petit truc, non ? C'est pas vous. Le problème, c'est qu'à 17 ans, je devais encore demander la permission pour aller dormir chez ma voisine où, justement, je regardais Roméo et Juliette pour la 138e fois en roulant des pelles imaginaires à Leonardo DiCaprio. Allez, je vous rassure, à force de patience, j'ai eu mon bac, ma majorité, mon passeport et ma liberté. On m'a même enlevé mon appareil dentaire. J'aurais pu fêter ça avec un pèlerinage à Saint-Malo pour me recueillir sur la tombe de Chateaubriand, chef de file du courant romantique français. Mais la Bretagne, ça m'inspirait pas trop. l'Espagne. Je trouvais ça bien plus caliente. J'ai pris quelques copines, un sac à dos, un billet de train. Mais pour vous dire la vérité, j'ai pas dépassé Cadaqués et le camping Salvador Dalí. J'avais un peu la flemme de plier ma tente tous les jours. Donc j'ai passé un mois à boire des chupitos sur la plage en dansant la Macarena à l'envers pour attirer l'attention du DJ.
Mais si mes souvenirs sont bons, Salomé, ça vous a quand même inspiré quelques scènes pour un livre, non ?
Très juste, Nicolas. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, rien ne se perd, tout se transforme, surtout dans la fiction. Tout ça pour dire que j'admire la maturité poétique d'Adèle de Montvallon. Maintenant, j'arrête de vous raconter ma vie et je termine en glissant quelques mots sur un autre génie précoce, injustement méconnu. Elle s'appelle Sabine Sicot. Elle voit le jour en 1913 dans le sud-ouest de la France. Sa famille est aisée, cultivée, littéraire, petite. Fascinée par les plantes et par les animaux, Sabine passe des heures à jouer dans le jardin de sa maison. Elle a 6 ans quand elle écrit ses premiers vers. 5 ans plus tard, à 11 ans, donc, elle a déjà 2 prix littéraires. Elle est repérée par Anna de Noailles, autrice majeure du mouvement romantique français et créatrice du prix Femina. Suite à cette rencontre, Sabine Sicot publie un premier recueil. Elle a 13 ans. Je ne sais pas si vous écriviez déjà des poésies à 13 ans, Adèle, mais en tout cas, Sabine, ce sera son unique parution. Peu de temps après, elle se blesse au pied, pas d'antibiotiques à l'époque. La blessure s'infecte. 1 an de fièvre et de douleur plus tard, Sabine Sicot s'éteint à l'âge de 15 ans. Elle n'est pas morte jeune, elle est morte enfant. Et je vais juste vous lire un de ses poèmes, ça s'appelle « Le papillon de nuit ». Dans le ciel, une fleur sombre va silencieusement. Petite barque ramant, avion planant dans l'ombre. Sur les ailes, de gros yeux. Quel oiseau mystérieux, velu, menu, va, ramant, va silencieusement. C'est à l'heure où les parfums se dégagent un à un, des géraniums trop lourds et des verveines froissées, qu'un papillon de velours, comme une fleur de pensée, quitte les parterres d'ombre. Dans le ciel, une fleur sombre. N'allume pas, toi qui sais, la lampe aux clartés perfides, vois le pan de nuit des vides, son fil en zigzag muet. N'allume pas, toi qui sais, laisse la chambre dans l'ombre, une fleur dans le ciel sombre.
C'est beau. Merci Salomé.
C'est pas de moi, c'est de Sabine Sicot.
Sabine Sicot, oui, et on peut rappeler qu'après une longue absence, ses poèmes ont été republiés.
Oui, Le chemin de sable, un recueil paru aux éditions Fario.
Merci Salomé.
Quartier libre.
Adèle de Montvallon, vous étiez interpellée par cette chronique.
D'abord, merci beaucoup, parce que c'est des beaux compliments. Vous avez résumé pas mal de choses de mon livre, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions positives, en tout cas, sur le fait de commencer dans la poésie à 19 ans. Bon, je l'ai écrit à 17, il a été publié à mes 18, et là, je suis là à 19. Donc, je pense bien à Annika Sicot.
Sabine Sicot. Anita est là.
Ah oui, c'est vrai. J'ai switché. Qui a été poète avant moi. Encore.
Jonathan Dumani, vous avez commencé tôt à écrire des premiers poèmes, des premiers textes.
Donc c'était du rap.
Oui.
C'était, ouais, je crois, un peu de cet âge-là, 16 ans. Enfin, je ne sais pas à quel âge tu as commencé, mais je crois que mon premier texte de rap, je l'ai dû le faire à 15 ou 16 ans, ouais.
Alors de la poésie, on en rencontre tout au long de votre récit de voyage, Le vrai visage de la pluie, Jonathan Dumani. Le livre est paru aux éditions La Veilleuse. Dans ce récit à la première personne, vous nous racontez un voyage en Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Bolivie, Pérou, Chili et Uruguay. Un voyage dans lequel vous décrivez dans un style vif, parfois presque télégraphique, la vie au sens le plus large. La nature, les insectes, les humeurs de la météo, les odeurs, les paysages, la vie urbaine. Il y a beaucoup question de cuisine aussi. Et puis surtout, vous nous racontez vos rencontres et vos dialogues avec les gens qui vous accueillent. Une particularité de ce récit, c'est l'importance que vous accordez à la langue originale. Dans tous vos paragraphes, ou presque, on rencontre des échanges en portugais du Brésil et en espagnol, traduit en bas de page. C'est votre amour du sonore, de l'oralité qui vous a incité à les transcrire en VO ?
C'est le besoin ou l'envie d'être fidèle, je pense, à des paroles d'autres personnes. Parce que c'est plusieurs voyages, en fait. C'est
oui.
Un ensemble de voyages. Donc voilà, mon papa a émigré en Uruguay. Donc je suis allé plusieurs fois là-bas. Et après, il est venu en Europe. Mais moi, quand j'étais jeune, je suis allé 2-3 fois. Et ensuite, une fois sur place, j'ai eu l'occasion de faire un service civil. Et c'est là que ça a commencé. Donc en fait, l'écriture et les récits de voyage, parce que c'est pas vraiment un style que j'aime bien, le récit de voyage, ça m'embête assez vite. Et je me suis dit, bah en fait là, l'idée c'est de rendre hommage à des gens et résister à l'oubli si on veut, parce que tous ces souvenirs ou toutes ces rencontres, je voulais les restituer. Et je trouvais que prendre des photos, c'était trop simple. Et donc il me fallait un petit défi pour essayer de surpasser le texte de rap. Donc j'ai commencé à essayer de décrire les lieux, les situations, les personnes. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ces personnes, en fait, je peux pas. Elles doivent parler aussi. En fait, elles ont des choses à dire et je peux pas les dire forcément. Je peux pas tout dire à leur place. Donc l'envie de donner la voix à ces gens-là, c'était clair assez vite. Et après, il a fallu se dire, bon, mais est-ce que ça passe de mettre en version originale ou pas? Et ça, ben, je sais pas, hein, si ça passe. Il y a des gens qui me disent, ah, je dois chaque fois aller voir en bas de page pour comprendre la traduction, ça me coupe dans le fil. Et d'autres qui me disent, bon, ben, c'est super, je comprends pas le portugais du Brésil, mais là, j'ai tout compris, quoi. Donc, j'en sais rien, mais c'est vrai que, aussi, c'est le son de la langue. Quand je le lis, parce que l'idée, c'est de lire le texte, ben, j'entends ces gens.
Oui. Et alors moi personnellement, je trouve que ça marche très bien parce qu'effectivement, on fait l'effort de s'immerger aussi dans cette parole. C'est des paroles que vous aviez transcrites sur le moment ou comment est-ce que vous avez fait pour avoir les mots exacts de ces personnes que vous rencontrez? Vous les enregistriez ou comment vous faites?
Il y a eu un enregistrement que je vais lire une partie après,
oui.
Qui a été retranscrite. Mais non, en fait, j'ai pas tout écrit sur le moment. Il y a eu beaucoup de correspondances aux amis qui étaient, à la famille qui était en Suisse. Un des voyages a duré presque un an, quoi. Donc voilà, j'écrivais dans un style qui était complètement hybride. Donc Florence Robbins, des éditions La Veilleuse, a fait un grand travail éditorial pour adapter en fait ces textes qui n'étaient pas publiables sous forme écrite. Donc voilà, il y avait un peu de ça, des choses écrites sur place, mais d'autres choses en fait que j'avais pas la possibilité d'écrire. Où je trouvais trop compliqué d'écrire sur le moment. Alors je me suis dit, un jour ça viendra, j'arriverai à les coucher sur le papier, et je vais, dans les temps morts ou les absences de la vie, je vais me souvenir de tout ça, quoi. Donc j'essaie de réactiver le souvenir, la mémoire, et c'est assez fou parce que tout d'un coup on se rend compte qu'on a beaucoup de choses, qu'on emmagasine, et dès qu'on libère une ou deux particules, ben il y a tout le reste, en fait, il y a tout le contexte qui se replace, et on est là, au même endroit. Donc en fait, j'avais pas besoin forcément d'être sur place pour écrire, mais plutôt de me connecter à la sensation du passé pour revivre la chose dans le présent. Voilà. Et peut-être inconditionnel aussi, ou un futur.
Peut-être. Alors, pour avoir une idée de ce que ça donne, je vous propose de nous lire un passage que vous avez choisi, Jonathan Dumani, sur une musique de votre choix également, du musicien argentin Atahualpa Yupanqui.
Donc là, nous sommes en Argentine. Avec Abel Flavio. C'est lui qui parle en français. Bon, aujourd'hui, nous sommes là, le 7 février 2015, ici dans la ville de Santa Maria, provincia de Catamarca, dans ma maison, la maison d'Abel Flavio Arjona di El Unquillo et la maison d'Ernesto Flavio Alejandro Arjona di Tejucuaré, maison de poète, terre de poésie. Et nous sommes là avec toi, Jonathan, et on va prendre un petit moment pour parler de ce musée en hommage à ma maman. Maria de la Mercedes Ramona Contrero Aguero de Arjona. Pour que t'en parles au tien aussi, au tienne. Alors voilà, tu vois, c'est un musée en forme d'arbre. Et là, au pied, tu vois quatre segments de bois plantés dans le sol. Et ben, ils représentent ses quatre enfants. On était tout pour elle. Il ne reste plus qu'Ernesto et moi maintenant. Les autres sont partis. On a traversé de rudes épreuves, tu sais. Je vais pas tout te dire là, mais voilà, c'est la vie. C'est comme ça. Il y a des hauts, des bas. On est reconnaissant d'être là, encore en vie. Et là, regarde là, cette chaise en osier. Eh ben, c'est sa chaise. Et si tu tends l'oreille, mon ami, eh ben, tu te rapproches de la chaise. Tu pourras peut-être entendre sangloter, mi mama, parce que voilà, beaucoup de douleur, de tristesse. La vie ici. Elle était dure pour elle, pour nous. Et là, regarde là. Là, eh ben, ce couteau, eh ben, c'était pour peler les patates. T'as vu comment il est moussé, ce couteau là? Bah, imagine-toi combien elle en a pelé des patates. Parce que mi mama, elle est morte à 105 ans. Ça fait beaucoup de patates, non?
Bon, je vais la faire courte aujourd'hui, hein. Mais bon, voilà, mes mamas, c'est la meilleure. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ou disons, il y a toujours plus à dire, hein, mais bon, on va s'arrêter là aujourd'hui. T'as tout enregistré, Jonathan? T'as pu comprendre l'importance de ce musée? C'est notre mémoire à nous, à la famille, à Ernesto, à moi. On est les derniers à vivre ici, sur cette terre. Après nous, je sais pas trop ce qui se passera. Voilà pourquoi c'est important de relater l'existence de ce petit musée en hommage à notre mère. Bon, on va s'arrêter là, hein. Mais tu leur transmets, hein, à ta communauté. Tu leur diras, hein, l'histoire de mi mama. C'est important.
Je crois qu'on peut l'applaudir. Magnifique. Merci beaucoup. Alors, on entend vraiment cette voix. C'est magnifique comme vous la restituez. Et il y a plusieurs registres au sein de ce livre, Le vrai visage de la pluie, notamment des poèmes, des textes destinés à être rappés, peut-être. Il y a le voyage, le souvenir de voyages précédents dans les mêmes régions. On est plongé comme ça dans un monde de sensations, un monde étourdissant que vous nous faites ressentir aussi par votre usage très fréquent du jeu de mots, du jeu de sonorités. Manière aussi peut-être de remâcher, de faire vôtre un monde qui, à bien des égards, vous reste étranger.
Le monde du livre
ou mon monde, moi ? Le monde que vous visitez, non pas en tant que touriste, vous êtes peut-être davantage impliqué que cela, mais néanmoins, il y a des choses qui vous résistent. On sent bien que vous êtes le Suisseau, vous êtes le Suisse.
Ben, je suis un colon, hein, en fait, plusieurs centaines d'années après. Mais finalement, voilà, je suis un homme blanc au passeport suisse. Et ça donne tous les privilèges qu'on peut imaginer. Donc, je suis un touriste, je suis un étranger, ça c'est clair. Et bon, après, j'avais l'impression aussi d'être là ou d'être chez moi, peut-être à cause des privilèges aussi, mais voilà, les gens que je rencontrais, ils m'ouvraient leurs portes. Je voyageais tout seul, je crois que ça donne beaucoup de liberté aussi. Donc ouais, j'étais un peu là-bas, étranger, mais ici je me sens pas forcément chez moi non plus, avec les racines multiples et puis les considérations de l'Europe et de la Suisse à l'égard de l'autre. Des autres parties du monde. Et puis, le livre parle beaucoup de colonisation aussi et de décolonisation, en quelque sorte. J'ai pas toutes les clés encore, mais c'était ça aussi, d'aller sur place et de discuter avec les gens qui me parlaient, en fait, de leur histoire. Et je comprenais autrement la colonisation que ce que j'avais appris dans les livres. Et ça, je crois que c'était une grande chance.
Alors, il y a une figure qui traverse tout le récit, c'est celle d'Eduardo Galeano, grand journaliste et écrivain uruguayen, auteur notamment des Veines ouvertes de l'Amérique latine ou de la trilogie Mémoire du feu. C'est un guide, une figure essentielle pour vous dans votre appréhension de ce continent?
Oui, parce que je connaissais pas ce livre-là, Les Veines ouvertes de l'Amérique latine, qui m'a justement appris d'autres choses qu'on en avait dans les cours d'histoire. Et il y a un autre livre qui s'appelle Mémoire de feu, qui m'a inspiré à la suite en fait du voyage, que j'ai découvert là-bas, mais que j'ai pas eu l'occasion de lire. Donc c'est en fait des histoires très brèves, c'est 3 tomes, ça fait 900 pages comme ça, où en fait ils relatent l'histoire du point de vue de l'indigène. Donc ils parlent pas de défaites, mais plutôt des victoires, parce que ils se sont fait rétamer beaucoup quand ils sont arrivés, les Espagnols, les Portugais, les Néerlandais et tous les autres colons. Et ça, on l'oublie. Et donc lui restitue en fait l'histoire telle qu'elle était. Avec toute la poésie aussi et toute la culture populaire. Donc il a écrit aussi un livre sur le foot.
Oui.
Donc je crois que c'est vraiment une inspiration.
Sur la couverture de votre livre, Jonathan Dumani, on voit la silhouette de l'Amérique latine inversée par rapport aux cartes traditionnelles, un renversement de perspective que vous évoquez aussi à plusieurs reprises dans le récit. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous?
Ça, c'est une œuvre d'un artiste uruguayen, Garcia Torres, je crois en 57, si je me souviens bien, qui a fait un croquis, mais beaucoup de gens l'ont fait avant lui, sauf que voilà, ils sont restés anonymes, l'histoire les a oubliés, mais voilà, lui, c'était un artiste déjà affirmé, et l'idée, c'était de renverser les rapports de domination, et que notre Sud soit leur Nord et inversement. Enfin, il le dit beaucoup mieux que moi. mais voilà, ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris sur place, que je connaissais pas cette œuvre. Et finalement, cette pensée-là qui induit beaucoup d'autres pensées et qui remet les choses à leur place.
Une partie importante de votre récit se joue au Brésil, pays extraordinaire à bien des égards, et en particulier sur le plan musical. Voici un titre d'un artiste très en vue en ce moment, guitariste, chanteur et bien d'autres choses encore, Pedro Martins, dans Quartier Livre, toujours en public aux Journées littéraires de Soleur.
«
Une nouvelle étoile de la scène musicale brésilienne, Pedro Martins, dans Quartier Livre. Nous sommes toujours à Soleure, à la Cantina del Vino, dans le cadre des 47e journées littéraires de Soleure, une manifestation plurilingue à l'image de la Suisse, d'où mon envie d'accueillir dans cette émission une traductrice, Anita Rochdi. On vous connaît en Suisse romande et dans le monde francophone pour vos traductions de l'italien, notamment de l'écrivain lombard Paolo Cognetti. Vous avez traduit plusieurs de ses romans, dont Les Huit Montagnes, prix Médicis étranger en 2017. Vous êtes également la traductrice du tessinois Fabio Andina, dont le premier roman Jour à Leontica a remporté le prix du public RTS en 2022. Fabio Andina, qui fait d'ailleurs partie des prix suisses de littérature cette année avec un nouveau livre. Et puis vous traduisez de la poésie, et notamment celle de Yari Bernasconi, poète tessinois, dont le recueil La Casa Vuota a reçu en 2021 un prix suisse de littérature. Vous êtes spécialisé dans les prix suisses. Vous avez peut-être quelque chose à voir là-dedans. Recueil traduit par vos soins et paru ce printemps en édition bilingue aux éditions La Veilleuse. Anita Rochdi, vous êtes française. Vous vivez à Bienne après avoir vécu en Italie, en Allemagne. Et quand on regarde votre parcours de traductrice, on devine une certaine géographie, en gros, des auteurs qu'on rencontre au pied de la chaîne des Alpes, d'un côté et de l'autre, qui écrivent volontiers sur ce décor, la montagne, la nature. C'est un hasard ou un goût personnel ?
C'est pas mal un hasard en fait. Ouais. Mais en habitant en Suisse pendant de longues années, les montagnes s'imposent à la fin. Mais les montagnes, c'est pas tant des frontières, des lieux de frontières comme on parle souvent de frontières naturelles. Je trouve que c'est aussi encore des lieux de passage et de contrebande. Et c'est des lieux de solidarité. Et il se passe beaucoup de choses intéressantes.
Vous employez ce mot de contrebande. Sur votre site internet, on peut lire que vous êtes contrebandière culturelle. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
C'est justement parce que je m'inscris dans cette logique d'échange.
Un peu illicite ? Non.
Disons, sous le manteau. Pas très macroniste. Je ne saurais pas comment. Ce que je voulais dire, c'est que je m'inscris davantage dans les marges.
Oui.
Et en fait, je crois que je vais changer mon appellation. Plutôt que contrebandière culturelle, je vais dire que je pratique maintenant de la littérature buissonnière. Il s'agit d'offrir des lignes de fuite, mais aussi des portes vers d'autres possibles, d'autres imaginaires, et d'autres peuples, populations, d'autres histoires. Avec Yari Bernasconi, par exemple, on s'intéresse au passé des Alpes, à une histoire un peu oubliée. On regarde à travers la fenêtre, ou ce qui était une fenêtre d'une vieille maison, d'une ruine en montagne. On s'intéresse peut-être à ce couteau émoussé de la mama qui est pas valdôtaine pour le coup, elle est plutôt tessinoise. Il faut que je fasse attention de quel côté des Alpes je me situe, mais pour moi c'est un peu les mêmes personnes. Et parfois, leur séparation est très absurde administrativement.
Alors, on va entrer dans votre traduction de La Maison Vide de Yari Bernasconi. On a essayé de reproduire en audio la mise en regard du texte original et de votre traduction qu'on voit dans ce livre. Voici un poème intitulé « Plaine morte ».
Les seules tracce sulla neve sono le tue, che cammini davanti a me. Imaginando sentieri.
Les seules traces dans la neige sont de toi, qui marche devant en imaginant des sentiers.
Dietro quella roccia adagiata contro il cielo, fra vette ancora più alte c'è il ghiacciaio.
Derrière ce rocher adossé au ciel, entouré de sommets encore plus hauts, il y a le glacier.
Ci aspetta, senza saperlo, con i suoi crolli e le sue pietre trasparenti.
Il nous attend sans le savoir, avec ses chutes et ses pierres transparentes.
Guardo i bastoni e le scarpe che vanno.
Je regarde les bâtons et les chaussures qui vont.
Mi accorgo dell'anno trascorso, le vite accarezzate e poi perse.
Je prends la mesure de l'année écoulée, des vies caressées puis perdues.
I ricordi che restano e che pungono.
Des souvenirs qui restent et qui blessent.
Ti seguo.
Je te suis.
Siamo due punti di un bianco senza fondo, i due brevi respiri di un immenso polmone.
Nous sommes deux points d'un blanc sans fond, les deux souffles courts d'un immense poumon.
Merci à Sophie Grecuccio et Hélène Ichters pour cette lecture. Alors là, il est question de montagne, mais ça n'est pas ce qu'on rencontre le plus dans la poésie de ce recueil de Yari Bernasconi. En revanche, ce qui domine ici et ailleurs, Anita Rojdi, c'est une certaine mélancolie, le sentiment de la fin de quelque chose, d'un monde évanoui.
On baigne un petit peu là-dedans en ce moment.
Bah oui, j'allais vous le dire. C'est vrai qu'avec le drame de Blatten, on est vraiment dans cette espèce de fin du monde, de ce paysage mélancolique de montagne aussi.
Oui, Yari et moi, on est de la même génération. Il est né en 78 et je suis pas née en 78. Je suis un peu plus jeune, mais on est de la même génération. Et oui, on regarde le monde avec peut-être cette mélancolie et aussi cette envie de le coucher sur le papier, qu'il garde une trace, sans savoir vraiment où ça va. C'est difficile de se projeter dans la littérature. Aujourd'hui, quand avant on pouvait se dire qu'on parlait, on écrivait pour des siècles à venir, pour entrer en dialogue avec d'autres sociétés peut-être. Et là on est plus dans le présent, dans l'observation, un peu comme ce que Adèle décrit. Et en fait j'ai l'impression que dans les univers qui sont autour de cette table, ça rentre en résonance avec aussi l'univers de Yari. Il y a autant l'animal qui traverse que le couteau émoussé. Et il faudrait des années pour trouver le nom. Ou alors c'est la littérature de l'effondrement, je ne sais pas.
Oui.
Mais j'ai l'impression qu'on est là-dedans, dans l'instant, mais l'instant fragile.
Oui, ce qui est intéressant aussi dans ce recueil, c'est qu'on a quelque chose qui renvoie alors peut-être à une poésie beaucoup plus ancienne, la poésie romantique, avec cette espèce de poésie des ruines. Alors que ce soit en Estonie, dans le premier volet du recueil, Retour à Deyevo, ou dans La ville fantôme, cinquième et dernière partie du livre, dans laquelle on explore un site abandonné. Alors on y voit un écho effectivement à l'actualité, cette dimension d'effondrement, de catastrophe qui est très présente dans cette poésie de Yari Bernasconi, mais qui renvoie peut-être aussi à d'autres formes poétiques plus anciennes.
Je ne sais pas si Yari est un grand romantique, il faudra lui demander. J'ai l'impression que c'est plutôt, les romantiques c'est plutôt dans la passion, dans le rapport à la mort qui est très intense. Là, on est plus dans l'observation. Il n'y a pas les vagues. J'irai pas du côté des romantiques, mais plus du côté de la nature morte, pour faire écho avec le titre.
Oui, là encore, il y a des points communs, effectivement, avec les tableaux que vous décriviez, Adèle de Montvallon, tout à l'heure dans vos poésies. Dans le cadre de ces journées littéraires de Soleure, Anita Rojdi, vous animez alors un atelier de traduction avec Yari Bernasconi. Vous m'avez dit tout à l'heure en antenne que c'était pas vraiment un atelier, c'était plutôt une discussion. En tout cas, autour de cette idée de la façon dont on peut traduire de la poésie. Alors, vaste question, je vous demande pas forcément une recette, mais on est clairement dans un jeu très important de son, de rythme, autant que de sens. Que garde-t-on? Que doit-on sacrifier? Vous disiez tout à l'heure que, oui, le son était extrêmement important pour vous.
Le son, oui. La plus grande difficulté dans la poésie, c'est aussi la concision, c'est les non-dits, ce qui se dit entre les lignes, et les questions qu'on pose ou pas à l'auteur pour se projeter soi-même dans le poème. Yari est toujours très curieux de ce que je peux imaginer, de ce qu'il écrit. Donc, c'est aussi un dialogue intéressant, et nos deux imaginaires peuvent cohabiter. Donc oui, les sonorités, mais aussi beaucoup tout ce qui est autour. Comment le rendre sans trop en dire et rester dans cette brièveté.
Oui. On est ici aux journées littéraires de Soleure, dans un pays quadrilingue. La traduction joue évidemment un rôle essentiel dans la transmission des textes littéraires d'une langue à l'autre. De votre point de vue, Anita Rojdi, comment se porte cette transmission entre les régions linguistiques? Est-ce que les échanges sont peut-être plus faciles aujourd'hui? La compréhension de votre travail est-elle meilleure qu'autrefois? Qu'en pensez-vous? Comment va le monde de la traduction en Suisse?
J'aurais bien de la peine à parler en tant qu'experte de l'histoire des échanges entre les régions linguistiques suisses. J'ai l'impression que ça va bien. Mmh. En tout cas, il y a une grande curiosité. Les Tessinois lisent les francophones, les germanophones lisent les francophones.
Oui.
Et les traducteurs se lisent entre eux et dialoguent. J'ai l'impression que tout va bien, tout va pour le mieux. encore aujourd'hui, grâce à Pro Helvetia. On espère que ça dure.
Eh bien, on vous le souhaite. Le temps file ici à Soleure et sur les ondes de RTS Première, mais pas question de vous laisser partir sans vous soumettre à notre fameux rituel du QCM. Préparé par Hélène Ichters. Trois questions, quatre réponses à choix pour faire plus ample connaissance avec vous trois. Êtes-vous prête et prêt?
Oui.
Vous avez l'air. C'est bon. Eh bien, que vous soyez prêt ou non, c'est parti. Question numéro 1. Jonathan Dumani, si vos textes étaient une matière, laquelle serait-ce? A. De la mie de brioche. B. De la toile d'émery. C. Le contenu d'une flûte de champagne. Ou D. Une averse de grêle.
Une averse de flûte de champagne.
C'est pas mal ça. Oui. Vous visualisez la chose. Très bien. Ok, parfait. On en restera là. Question numéro 2 avec vous, Salomé Kiner.
Adèle de Montvallon, par quel autre moyen que le livre souhaiteriez-vous faire vivre vos micro-poèmes? Sur le glaçage d'un gâteau d'anniversaire? Sur l'écorce d'un arbre? Sur une porte de WC public? Ou par mémo vocal?
Sur l'écorce d'un arbre.
Je m'en doutais un peu.
Très bien. Est-ce que vous performez vous-même aussi vos textes? Vous les dites
J'ai eu l'occasion pendant les journées là, littéraires de Soleure d'en lire plusieurs, d'en lire beaucoup pendant les différentes discussions, prestations. Mais en général, non, je n'ai pas de lecture pour les dire.
On l'a bien compris dans la lecture de Jonathan Dumani tout à l'heure. Et ce côté, cette oralité qui est un processus d'écriture aussi, est-ce que pour vous aussi c'est le cas, puisqu'on a parlé des sons qui se répondent dans vos poèmes?
Oui, c'est vrai qu'il faut quand même que je les dise à voix haute quand je les écris, pour voir s'ils sonnent bien, si ça donne ce que je cherche. Mais c'est très basé aussi sur le regard et sur la consonance qu'on a dans notre tête aussi.
Moi, j'aimerais beaucoup poser cette question à Anita. Vous passez vos traductions au gueuloir ou... Vous avez dit tout à l'heure que vous travaillez à la sonorité.
Oui.
Vous lisez. Mais
oui, non, pas au gueuloir. Je m'enregistre et puis je me réécoute. Voilà. Mais je ne tire pas de coup de feu quand j'ai fini ma traduction.
Très bien. Eh bien. Question numéro 3, c'est pour vous précisément. Anita Rojdi, que rêvez-vous de traduire? A. Un livre de cuisine italienne. B. Un titre de rap du biennois au français. C. Une nouvelle traduction d'une pièce de Shakespeare, parce que vous traduisez aussi l'anglais, je crois. Ou D. Un guide touristique de Soleure.
Est-ce que le silence est une réponse? Shakespeare?
Shakespeare? Oui. Ouais, ça vous inspire?
Oui.
Très bien. On a parlé tout à l'heure de Paolo Cognetti. Je crois qu'il y a un livre que vous avez traduit qui va paraître prochainement.
Oui, c'est la biographie de la poétesse Antonia Pozzi qui sortira en octobre. C'est une co-traduction avec Thierry Gilbeuf qui signe les poèmes d'Antonia Pozzi. Et on a trouvé le titre. Et je chantais à demi-voix Un été ancien.
Oui. Joli, bravo. Et puis le prochain, Fabio Andina, j'imagine.
C'est pas encore à l'ordre du jour.
Ok. Très bien, bon, affaire à suivre. Merci d'avoir joué à notre QCM.
Ah, tant mieux, si vous trouvez cela drôle, je n'osais pas l'espérer.
Quartier Libre.
Un autre petit rituel dans cette émission, c'est celui de la question qu'on fait passer d'une semaine à l'autre. Alors pour cause de hockey sur glace, on n'a pas eu d'émission la semaine dernière, donc je n'ai pas de questions à vous transmettre. En revanche, je voudrais vous demander de poser une question à l'invité de la semaine prochaine. Hélène Ichters recevra les éditions Art et Fiction qui célèbrent cette année leurs 25 ans. Quelle question avez-vous envie de poser à Véronique Pittori d'Art et Fiction, Anita Rojdi?
Alors, comme je connais cette maison d'édition et que je trouve pour un excellent travail, je me demande ce qu'il prévoit de faire en septembre et quelle surprise il nous réserve.
Pour la rentrée, eh bien, on leur posera la question. Avant de se quitter, prenons quelques nouvelles des routes en ce week-end férié.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Martigny-Lausanne, on compte une demi-heure de retard entre Aigle et Vevey en direction de Lausanne. Sur l'autoroute Genève-Lausanne, on roule par à-coup sur plusieurs tronçons entre l'échangeur du Vengeron et Rolle en direction de Lausanne avec un retard d'une vingtaine de minutes. Sur l'axe Chiasso-Lucerne, les fils s'étirent sur 10 km entre Faido et l'entrée sud du tunnel du Gothard, ce qui représente 1h3 quarts d'attente en direction de Lucerne. Pour consulter l'inforoute en tout temps et en temps réel, le site rts.ch/trafic est à votre disposition.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Et c'est la fin de ce Quartier Livre enregistré aux 47e journées littéraires de Soleure qui se tiennent tout ce long week-end de l'Ascension dans le chef-lieu alémanique. On était en compagnie de la poétesse Adèle de Montvallon. Son premier recueil « Ce que l'ombre dit de la lumière » est paru aux éditions Olivier Moratel. En compagnie de Jonathan Dumani, dont le récit « Le vrai visage de la pluie » est disponible à La Veilleuse. Et enfin, en compagnie d'Anita Rochdi, traductrice du recueil poétique de Yari Bernasconi, « La maison vide », paru ce printemps en édition bilingue et également à La Veilleuse, trois livres qu'on vous recommande chaudement. Merci à tous les trois d'être passés par la Cantina del Vino et beau séjour à vous à Soleure. On peut les applaudir encore une fois. Merci à vous, cher public. Merci à vous, Salomé Kinner, de m'avoir accompagné dans cette émission.
N'oubliez pas de mettre de la crème solaire quand vous sortez, Nicolas.
Oh, c'est joli. Merci. Merci pour un dernier jeu de mots. Il le fallait.
Je l'ai piqué à Anita. C'est elle qui me l'a soufflé. Je dois citer mes sources. C'est très important.
Team de choc. Bravo. Merci à Tim pour son accueil chaleureux à la Cantina del Vino. Grand merci aux confrères de SRF pour l'organisation et la diffusion de cette émission, en particulier Eddy Massaoudi dans le camion, Patrick Arnold ici et Félix Munger. Merci à Hélène Ichter, Samuel Morier-Genoux, Sophie Grecuccio, Bastien Testori et Bastien Arnold qui m'ont aidé à préparer cette émission. Dans un instant après les informations, c'est La Belle Échappée. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi à l'écoute de nos programmes.
L'heure avec RTS Première.
Merci d'être fidèle à RTS Première, il est 17h.